Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
On bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
D'afficher la plus belle.
Bienvenue sur Radio Canus, si vous nous rejoignez, sinon vous étiez à l'écoute des magnifiques bandes musicales de la plus rebelle des radios. Et oui, elles sont chouettes, on passe d'une musique à une autre et c'est toujours très sympathique, ma foi.
Avec Ultra Vomit, juste avant le Kenya.
Oui, non mais en plus on découvre plein de choses, enfin voilà, c'est toujours très chouette d'écouter ces bandes musicales avant de prendre l'antenne ou en pleine nuit, c'est chouette aussi. En tout cas ce soir, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à toi Laurent. Nous sommes le jeudi 2 novembre 2023 et ce soir nous allons parler avec toi de Gaza. Nous parlerons de colonisation, ça sera avec moi si vous le voulez bien. Nous irons du côté du Kenya et de la Tanzanie. Nous parlerons de discrimination et de famille. Nous parlerons de travailleurs ouvriers, de lutte, d'éducation avec des gens qui posent problème, si j'ai tout compris, Laurent. Nous partirons peut-être du côté de l'Arabie Saoudite et puis peut-être d'autres choses pour terminer si nous avons le temps en ce jeudi 2 novembre.
Oui, alors j'ouvre encore une fois sur la guerre à Gaza, mais sous un angle un petit peu différent cette semaine. Je ne vais pas vous refaire tous les massacres qu'il y a eu, l'attaque de camps de réfugiés, tout ça. Je vais vous reparler plutôt des conséquences directes ou indirectes en termes démocratiques que pose problème cette guerre et les guerres précédentes d'ailleurs menées par Israël. Alors ça marche pour d'autres pays, mais là on parle d'Israël sur les Palestiniens. Et on va parler en fait de la presse qui finalement est une victime collatérale de cette guerre, puisque grosso modo la presse est muselée, bafouée, assassinée, tuée. C'est la conclusion. Bon, bah, je vais peut-être vous faire quand même le reste de l'info. Donc c'est la seule guerre du moment, en dehors de celle qui tue des êtres humains, c'est celle de l'information. On se rend compte qu'il y a un problème à Gaza. Alors d'abord, parce qu'il y a de moins en moins de journalistes sur place, parce que alors il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. La première, c'est que l'accès à Gaza est formellement interdit par Israël. qui bloque l'information, hein, qui bloque les journalistes. Elle pourrait logiquement bloquer des combattants, par exemple. Dans une guerre, ça paraît faire partie de la guerre. Par contre, bloquer les journalistes, c'est vraiment un truc qui est antidémocratique et qui est pas lié à la guerre. Donc Israël bloque l'accès à la bande de Gaza, mais il y a aussi un nombre de morts assez impressionnant, puisque le chiffre officiel aujourd'hui est de 34 morts depuis le 7 octobre, date de l'attaque du Hamas. Donc la situation est en plus compliquée dans la bande de Gaza, toujours par les coupures du réseau Internet, des réseaux de communication, puisque Israël a mis en œuvre tout ça pour empêcher la population de vivre. Pour alors la raison officielle, c'est empêcher le Hamas de communiquer, mais ils savent très bien que le Hamas communique par d'autres moyens que par des réseaux officiels Internet. Hein. Il existe d'autres moyens de communiquer par ondes qu'Israël ne bloque pas directement comme ça. Non, là, quand Israël coupe les communications et coupe Internet notamment, c'est pour empêcher les témoignages de sortir, bien évidemment, et empêcher les journalistes de faire leur travail. D'ailleurs, de nombreux journalistes sont partis ou ont essayé de partir de la bande de Gaza. On en a vu qui sont passés en Égypte il y a pas longtemps. Donc voilà. Alors, il y a eu aussi dans cette guerre de l'information, les attaques des médias directement hein, dans la bande de Gaza, puisqu'Israël a bombardé, a détruit aussi des endroits dans lesquels il y avait des médias, en sachant qu'il y avait des médias. Ce sont pas des dommages collatéraux, bien évidemment. Alors, il y a une destruction systématique du matériel. Qui empêche les journalistes de travailler, qui empêche aussi d'ailleurs les associations de porter secours aux civils. On est dans une sale guerre, il faut quand même le dire. En même temps, la guerre c'est toujours un peu sale, me direz-vous. Donc, conséquence de tout ça, conséquence du blocage des médias et des informations par Israël, ça fait le jeu des deux camps, puisque les deux camps balancent leurs propres informations directement sans qu'on puisse avoir un regard extérieur, une vérification possible, et on a finalement ce qui nous arrive, non pas de l'information mais de la propagande de la part de l'armée israélienne d'un côté, des militants et des militantes du Hamas de l'autre côté. Donc voilà où on en est aujourd'hui par la volonté d'Israël de ne pas laisser travailler les journalistes. Alors tout ça a poussé Reporters sans frontières à déposer plainte devant la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre, donc commis contre des journalistes en Palestine et en Israël. Alors c'est la troisième fois que Reporters sans frontières porte plainte depuis 2018. Faut dire qu'il y a eu des guerres depuis 2018 et c'est à chaque fois les journalistes sont visés. Alors même dans période d'absence de guerre, je vais redétailler un petit peu les choses. Alors aujourd'hui, la plainte portée par Reporters sans frontières concerne 9 journalistes sur les 34, hein, 9 journalistes tués depuis le 7 octobre dernier. Et 2 blessés dans l'exercice de leur fonction. Pourquoi seulement ceux-là ? Parce que c'est ceux-là qui sont documentés suffisamment. Dans la plainte, il y a d'ailleurs la destruction intentionnelle, totale ou partielle et volontaire de la part de l'armée israélienne de 50 médias présents dans la bande de Gaza. Donc voilà. On rappelle qu'il y a aussi des morts collatéraux des journalistes. Il y en a un, je crois, qui est mort en Israël et un au Liban. Parce que dans ces plaintes, en fait, il y en a 8 qui concernent des journalistes palestiniens tués durant les bombardements des zones civiles de la bande de Gaza par Israël depuis le 7 octobre. Et il y a aussi un journaliste israélien qui a été tué par le Hamas alors qu'il couvrait l'attaque du kibboutz par le Hamas, du kibboutz où il était, par le Hamas. Donc voilà. Alors, Reporters sans frontières s'appuie sur un article du statut de Rome, qui est l'article 8.2.b, qui décrit ce qu'est un crime de guerre. Alors, les 8 journalistes palestiniens assassinés par les frappes dans des zones civiles de l'armée israélienne rentrent dans ce cadre-là. Même d'ailleurs si ça avait été des frappes dans des zones militaires, puisque les frappes, d'après Reporters sans frontières, en fait, les frappes sont disproportionnées sur les civils. L'impact sur les civils est disproportionné par rapport à l'impact réel sur l'autre armée, c'est-à-dire le Hamas. Quant aux journalistes israéliens, ils relèvent aussi de cet article, mais pas en tant que crime de guerre. Là, ça relève d'un homicide intentionnel commis par le Hamas de tuer ce journaliste. Donc voilà, dans la plainte déposée par RSF, ça demande à ce que qu'il y ait aussi des enquêtes sur les autres journalistes tués. J'ai parlé de 34 tout à l'heure. Là, la plainte concerne 9 documentés par Reporters sans frontières, mais il y en a eu 34 au total. Alors, donc, comme je disais, c'est la troisième plainte auprès du procureur de la Cour pénale internationale concernant des crimes de guerre commis essentiellement. D'ailleurs, là, il y a un journaliste israélien, mais tous les autres et les deux précédentes plaintes, ça concernait que des journalistes non israéliens couvrant les conflits, notamment depuis 2018 et la bande de Gaza, l'attaque de 2018 hein, qui avait le nom qui s'appelait la marche du grand retour, qui a tué des journalistes, et puis d'autres, et puis il y a surtout une plainte en plus que Reporters sans frontières accompagne, celle déposée par la chaîne Al Jazeera, puisqu'on vous rappelle, la journaliste Shirin Abu Akleh a été assassinée par l'armée israélienne le 11 mai 2022, alors qu'elle faisait son travail de journaliste. Donc voilà, alors pour l'instant ces plaintes sont déposées, on espère qu'un jour que la CPI se bougera et entamera des démarches pour aller jusqu'au procès de l'armée israélienne et des assassins, membres de l'armée israélienne qui ont décidé de tuer ces journalistes. Voilà pour l'impact un peu indirect de cette guerre sur le travail qu'essayent de faire les courageuses journalistes et courageuses journalistes, parce que c'est vraiment pas facile. Alors autre chose sur cette guerre dans la bande de Gaza. En fait, depuis le 7 octobre, on a vu apparaître des accusations portées par des gens qui défendent la cause palestinienne, qui laisseraient entendre qu'Israël, j'en avais parlé brièvement, envisageait cette guerre comme un moyen de mettre en œuvre l'épuration ethnique que l'extrême droite israélienne rêve depuis longtemps, c'est-à-dire de vider la bande de Gaza de tous les Palestiniens. Alors, la réponse, en général, était de dire que c'était faux, c'était inventé, c'était en fait de l'antisémitisme, etc. Et patatras, aujourd'hui et hier sont sortis des documents paru dans la presse israélienne, entre autres, et la presse anglo-saxonne aussi, qui démontre le contraire, en fait. C'est un document, notamment, du ministère du renseignement israélien qui a été révélé. C'est une esquisse de 3 scénarios pour l'après-guerre. Et l'un d'entre eux, dont le premier scénario, c'est que la population de la bande de Gaza soit entièrement évacuée, éjectée dans le Sinaï, donc en Égypte, et qu'à la place, en Égypte, se construisent des villes d'abord avec des tentes et ensuite en dur pour avoir des villes pour que les Palestiniens ne soient plus en Palestine mais en Égypte. C'est grosso modo c'est ça. C'est le journal The Times of Israel, qui est un journal israélien qu'on peut pas classé dans les journaux ni de gauche ni antisémite, hein, qui résume le document issu du ministère du renseignement israélien. Donc ça s'appelle un transfert de population civile, officiellement. Donc cette épuration ethnique, elle est donc prévu dans ce scénario-là. Alors, les deux autres scénarios sont pas très crédibles, puisque c'est plutôt qu'est-ce qui va se passer après la fin de la guerre, quand le Hamas est entièrement détruit. Il y a une hypothèse de mettre un gouvernement, un nouveau gouvernement, on sait pas comment, c'est mal détaillé, puis ils disent que ça peut pas marcher. Et l'autre, c'est de que ce soit l'autorité palestinienne qui dirige la bande de Gaza. Et là, le ministère du renseignement israélien dit que ce scénario est peu probable aussi et peu intéressant. Alors, faut savoir qu'ils ont pas tort, parce qu'en fait, l'autorité palestinienne ne représente plus personne. Elle est détestée par une très grande majorité des Palestiniens, que ce soit ceux de la bande de Gaza ou ceux qui sont sous cette autorité. Je crois qu'ils sont encore plus détestés en Cisjordanie. Donc voilà, donc ce document, il est daté du 13 octobre, c'est-à-dire une semaine après l'attaque du Hamas en Israël. Donc c'est un vrai truc officiel, hein. Donc ça a fait réagir et ça a été analysé par différents journaux. On a le Financial Times, par exemple, journal anglais, qui reprend d'autres informations qui ont fuité, qui disent que Benjamin Netanyahou, quand il a parlé aux dirigeants européens, il leur a parlé de cette solution. Donc c'est pas simplement un truc qui vient du ministère des services secrets là, mais c'est aussi porté par Benjamin Netanyahou. Donc il serait venu, il aurait parlé aux Européens en disant que il voulait virer tous les Palestiniens de la bande de Gaza. Alors dans ce que révèle le Financial Times, cette idée aurait été plutôt validée par la République tchèque et l'Autriche, ce qui est pas rassurant. Et par contre, attaqué par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et ces trois pays font qu'ils sont suffisamment forts pour que tout le monde ait reculé là-dessus et qu'il n'y a pas de soutien et que Netanyahou s'est retrouvé un peu planté avec une Union européenne qui n'était pas d'accord avec cette idée-là de faire de l'épuration ethnique, grosso modo. Ça, c'est le côté rassurant de la chose, c'est qu'ils ont vraiment cette hypothèse-là, on peut pas dire le contraire, mais leurs alliés, puisque la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont quand même pas mal alliés à Israël dans le massacre des populations palestiniennes, ils vont pas jusqu'au bout, jusqu'à l'épuration ethnique. Voilà. Alors, de son côté, le président dictateur Abdel Fattah al-Sissi, dès le début, lui, il a dit non, mais moi, je veux pas de Palestiniens. Alors, il y a différentes raisons. La première, c'est que lui, il sait aussi qu'il y a cette hypothèse et il veut pas qu'il y ait une installation définitive des Palestiniens sur le territoire égyptien, ce qui paraît relativement logique parce que les Palestiniens, comme il le dit lui-même, alors il s'en sert, il dit que les Palestiniens doivent vivre sur leur terre, pas en Égypte. Et puis, il y a d'autres problématiques, c'est qu'ils ont peur qu'il y ait des gens du Hamas qui viennent dans cette région du Sinaï où il y a déjà des groupes rebelles islamiques. Et voilà, il a déjà des difficultés à tout gérer, ce dictateur, qu'il n'a pas envie qu'il y ait un problème supplémentaire qui se rajoute. Sauf que ça a été révélé par un site qui s'appelle Mada Massar, un site indépendant égyptien d'information, qui dit qu'en fait, ils ont quand même prévu de la logistique pour accueillir une partie des Palestiniens dans le Sinaï. Et d'ailleurs, il y a déjà quelques Palestiniens ou Israéliens, enfin des otages qui sont passés par cet endroit-là. Donc voilà. Mais l'inquiétude qu'on a, et que tout le monde a, c'est que Abdel Fattah al-Sissi, il est dans une situation compliquée en termes économiques et financiers, et que si jamais des pays occidentaux, notamment les États-Unis d'Amérique, lui mettent la pression et lui disent on annule ta dette si jamais tu accueilles les Palestiniens, lui il va sacrifier les Palestiniens et les Palestiniennes et il accueillera. Donc voilà, son discours reste un discours de politique politicienne et malheureusement on n'est pas sûr qu'il s'y tienne. Voilà, donc on a cette info officielle hein, de la volonté quand même d'épuration ethnique qui existe et qui n'est pas du tout un mensonge véhiculé par des pro-palestiniens pour envenimer les choses ou pour diaboliser la partie adverse. Voilà, c'est révélé par différents journaux. Alors j'en ai cité que deux, un journal israélien et un journal anglais, des gros journaux qui sont reconnus, mais voilà, ça a été repris par pas mal. Voilà. Et puis alors pour terminer cette info sur la situation dans la bande de Gaza, on va parler des trucs un peu plus drôles, presque drôles, en tout cas plus percutants, différents, originaux, des actes pour montrer son soutien à la cause palestinienne. Alors on va aller en Angleterre, il y a eu trois incidents similaires qui ont eu lieu dans trois restaurants McDonald's. Vous savez que McDonald's en Israël, alors McDonald's c'est des franchises en général, des franchisés, donc ils sont plutôt indépendants, et en Israël, la chaîne McDonald's a décidé, enfin plusieurs restaurants, de nourrir gratuitement les soldats israéliens qui partent à la guerre. Ça a énervé beaucoup de gens au niveau international et il y a une tentative de boycott de McDonald's. L'entreprise américaine s'étant mal défendue, elle a dit non mais en fait ils sont autonomes, nous on n'est pas responsable de la décision, mais ils prennent pas parti et qui ne dit mot finalement consent, comme d'habitude. Donc à cause de ça, il y a un appel à boycott et il y a eu différentes actions et je trouve la plus sympathique, parce qu'original dans le principe, c'est que ça arrivait donc à trois endroits en Angleterre, et notamment un endroit où c'est filmé, quelqu'un est venu avec des souris, des rongeurs, sur lesquels il avait peint sur les poils le drapeau palestinien, et il les a fait rentrer dans le restaurant McDonald's, dans trois restaurants McDonald's. Et ce qui fait que, bon, c'est, avoir des souris ou des rats dans un restaurant, c'est quand même pas top. Du coup, ça a emmerdé. Il y en a, des restaurants étaient obligés de fermer. Enfin, voilà, c'est pour rappeler au boycott. Donc, sur le premier restaurant, ça a été filmé. Il dit libérer la Palestine, boycotter Israël, etc. C'est un acte militant original avec des souris. Voilà. Donc, bon, de l'exploitation animale, un petit peu quand même. Mais voilà, c'est des souris. On peut dire qu'à Lyon, il y a eu une action aussi sur le McDonald's pour la même raison. Et là, par contre, c'était moins original. C'était juste des tags sur la façade du McDo de Bellecour. Des tags du genre « Ici, on tue Gaza » ou « Complice génocide ». Voilà, ce qui n'est pas totalement faux, hein, vu que la maison mère de McDonald's n'a pas condamné le soutien à l'armée israélienne de la part des McDonald's israéliens. Donc voilà, ça a été relayé pas mal par la GAL, le groupe Antifa Lyon et environ. Mais voilà, c'est important de se rappeler qu'il y a plein d'entreprises qui collaborent avec la guerre et qui soutiennent la guerre. Donc là, McDonald's Israël, c'est le cas. Mais on rappellera que Teva, le fabricant de médicaments, c'est le cas aussi. Que ceux qui font de l'eau pétillante, là dont j'ai perdu le nom, qui vous permettent, voilà, chez vous de faire de l'eau pétillante, sont aussi impliqués dans cette guerre et dans le soutien à l'armée israélienne. Donc voilà, il y a des choses à faire pour essayer qu'un jour, peut-être, il y ait la paix là-bas. Et samedi prochain, manif ou rassemblement à Lyon, enfin manifestation officiellement, on sera le 4 octobre, non, le 4 novembre. Ce 4 octobre, c'est déjà passé. Le 4 novembre à 15h, place Bellecour, manif pour la paix, pour appeler à la paix dans cette région du monde. Un cessez-le-feu immédiat, grosso modo, demandé.
Oui, le mieux pour savoir quelles sont les entreprises qui pactisent avec l'extrême droite israélienne ou qui sont sur les territoires occupés en Cisjordanie ou qui soutiennent aujourd'hui l'armée israélienne, c'est d'aller sur le site de BDS et de mettre son nez dedans un peu plus que juste se dire, ah là là, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, il y a des vilains, et puis eux ils sont très méchants, puis eux ils sont très nuls. Voilà, il y a aussi des raisons économiques et politiques dont il faut avoir les tenants et les aboutissants, et je pense que le site BDS est un bon lieu d'analyse et de récupération d'informations sur ces entreprises et ces multinationales. Mmh. Alors, je vais vous parler de colonisation avec deux exemples qui sont des exemples de la construction même de deux pays. On va parler d'une république fédérale et d'une monarchie parlementaire, mais qui explique aussi le pourquoi du comment aujourd'hui on parle de son histoire et de sa colonisation. Je vais commencer avec cette monarchie parlementaire. On va parler de l'autre côté de la Manche du déplacement de ce bon Charles, nouveau roi donc, qui part en balade et donc est allé pour son premier pays du Commonwealth au Kenya. Kenya, pays colonisé, qui attendait beaucoup de cette visite de Charles III, et en particulier les ONG kenyanes et les organisations des vétérans. Il y avait une volonté d'en savoir un peu plus sur la position de Charles III et donc aussi, hein, peut-être derrière des autorités et d'un gouvernement ou des gouvernements, hein, puisqu'il y a une Grande-Bretagne aussi. En tout cas, cette royauté, elle était attendue sur cette colonisation, et en particulier, ce qui était attendu, c'était le pardon. Alors cette notion de pardon, on a pour certains et certaines d'entre nous, tout de suite une référence, c'est la religion. Oui, et quand on n'est pas religion, évidemment, c'est un mot qui nous embête. Oui. Mais
parce qu'on peut vivre sans pardon, en fait, en acceptant ce qui s'est passé et en regrettant ce qui s'est passé.
Sauf qu'il y a une autre notion du pardon, c'est une notion qu'on peut avoir d'un point de vue politique, parce que cette demande de pardon, elle va parler de repentance, de justice et de vérité. Et donc c'est une autre notion, hein, sur laquelle on peut utiliser ce mot, et il a toute sa force évidemment dans des atrocités. En Afrique du Sud, il y a eu cette notion du pardon, et puis sur la colonisation aussi, qu'est-ce qu'on fait les empires coloniaux dans un certain nombre de pays. Donc Charles III se rend au Kenya, une première visite d'État en tant que roi dans un pays du Commonwealth. Il est donc attendu, comme je le disais, par en particulier la Commission kenyane des droits humains, qui attendent donc pour savoir si ce roi va présenter des excuses publiques inconditionnelles et sans équivoque, et donc aussi amener une demande de pardon. Alors, ce roi, il a rencontré le président William Ruto. Il a tout un tas de rencontres, hein, avec des jeunes, parce que c'est aussi un roi. Alors, vous savez, ça va aussi dans des écoles, d'une manière générale. Hein, je vous la fais. Ça peut aller dans un stade, dans une école. même une MJC, vous voyez, imaginez un petit peu. Et puis là, ça va, par exemple, il va visiter un orphelinat d'éléphants. Il a rendez-vous avec des entrepreneurs. Voilà. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Et il est allé donc déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu dans le jardin où a été hissé en décembre 63 le drapeau du Kenya à la place de l'Union Jack. Donc un lieu quand même assez symbolique, ouais, évidemment, d'un côté comme de l'autre, donc du côté de William Ruto ou du côté de Charles III. Il a fait donc ce déplacement, il est allé aussi au cimetière militaire de Nairobi pour rendre hommage aux Africains morts pour la Grande-Bretagne lors des deux dernières guerres mondiales. Rappelons que les États coloniaux, les empires coloniaux ont largement utilisé les populations africaines, hein, sur les champs de bataille, hein, c'était facile, ça coûtait pas cher et c'était bien pratique. Donc il y a eu aussi ce déplacement qui est aussi extrêmement important, et il a expliqué dans un discours, je vous en dis quelques phrases, hein, comme ça: des actes de violence odieux et injustifiables ont été commis à l'encontre des Kenyans alors qu'ils menaient une lutte douloureuse pour l'indépendance et la souveraineté, et pour cela il ne peut y avoir d'excuses. Rien de tout cela ne peut changer le passé, mais en abordant notre histoire avec honnêteté et ouverture, nous pouvons peut-être démontrer la force de notre amitié aujourd'hui, et ce faisant, nous pouvons, je l'espère, continuer à construire un lien toujours plus étroit pour les amener à venir. Voilà ce qu'a dit Charles III en substance, hein, il a raconté d'autres choses. Toujours est-il qu'il a pas amené de pardon, de demande de pardon. Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais venu, hein, de la part de sa mère, hein, et donc de lui-même, ça ne vient pas. Il n'y a pas, hein, officiellement, donc, de demande de pardon pour les atrocités qui ont été commises sur cette période de colonisation britannique entre 1895 et 1963. Il faut se souvenir qu'en 2013, il y avait eu des regrets sincères. Je mets les guillemets entre regrets et après sincères, hein, entre hop, regrets sincères, pour les violences de la colonisation. Et puis, il y avait eu une procédure de dédommagement pour environ 5000 Kenyans victimes d'abus pendant une insurrection. Mais il y avait eu 10 000 morts entre 1952 et 1960. Je précise les siècles pour les plus jeunes d'entre nous. Finalement, globalement, les personnes avaient reçu environ 3 000 euros, ce qui est quand même... petite pitch-neck de pas grand-chose. Mais du côté, il faut dire, hein, quand même, de William Ruto, on a plutôt voulu apaiser cette rencontre, dire que c'était un bon signe, une avancée quand même importante, et puis un déplacement quand même de Charles III, c'est pas rien. Malgré tout, il n'y a pas de pardon, et ça, les ONG sur place, et puis les organisations des droits humains et des vétérans sont...
énervés.
Pas très content, j'allais dire. Il n'y a pas d'énervement. Il y a ce pardon, il amène du soulagement à chaque fois. Mais il y a une réalité aussi, c'est qu'on est face à un empire britannique, un empire monarchique qui a colonisé. Et dans l'empire monarchique, eh ben, il y a une succession. Et que pour un roi, c'est difficile de frapper sa propre famille ou sa propre organisation d'un pays et de territoire, ce qui est plus facile du côté de l'Allemagne, puisqu'on a là une république fédérale qui, pour le coup, cherche, depuis la Seconde Guerre mondiale, à obtenir le pardon des pays colonisés par l'Allemagne. On se rappelle, hein, ça a été un empire colonial aussi, mais c'est plus facile parce que on n'a plus cet empire. On a aujourd'hui une république fédérale, donc c'est plus facile, oui, aussi.
C'est pas le même gouvernement, c'est pas la même, exactement, famille, c'est pas la même structure, c'est pas le même système, donc c'est facile de condamner.
Ah, c'est facile, non, enfin, parce qu'on sait que d'autres pays ont plus de mal.
On l'a vu avec la Namibie, ils ont mis beaucoup de temps à
oui, en 2021,
à demander pardon pour le génocide.
L'Allemagne a reconnu, ouais, avoir
les héros.
Avoir effectivement commis un génocide.
Ouais, 80% de la population.
Donc c'est quand même là une reconnaissance importante qui est arrivée, comme tu le dis, en 2021, tardivement, puisqu'il y a une colonisation de la Namibie qui a duré donc sur la fin du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale.
Deuxième.
La Première Guerre, 1915, hein, puisque après il y a une bataille sur le génocide, en tout cas, pardon, sur, oui, jusqu'au sur génocide, jusqu'à donc à cette Première Guerre mondiale. En tout cas, la Namibie a son indépendance maintenant, et on a un président qui sert pas à grand chose, hein, en Allemagne, mais est là pour la moralité du pays. Et donc c'est dans le cadre de ce déplacement qu'on a un président qui est allé en Tanzanie rencontrer des populations et des vétérans, et qui est allé demander pardon. Tout toute une différence. Il y a un symbole là aussi. Mais il faut dire que l'Allemagne est aussi dans un processus de remise en question de son histoire, de son passé et des actes, que ça soit l'Allemagne, République fédérale unie aujourd'hui ou de l'Empire. Il y a quand même une volonté de se retourner sur son passé. Et en tout cas, en Tanzanie, il y a eu cette volonté du président allemand qui a dit « En tant que président allemand, je voudrais demander pardon pour ce que les Allemands ont fait subir ici à vos ancêtres. » Donc il faut dire qu'entre 1905 et 1907, il y a eu un massacre absolument énorme. Alors, la prononciation ne sera pas la bonne, celle que j'ai, mais c'est les Maji Maji ou les Mai Mai. Alors en plus, si vous le dites en allemand ou pas, ça change la chose. Entre 200 000 et 300 000 représentants de ces tribus, il y a eu un soulèvement, ont été massacrés. C'est énorme. Et donc Frank-Walter Steinmeier, qui est le président allemand, est allé rencontrer les descendants du chef Sanjia Mbano, qui était à la tête de la rébellion à l'époque. Et il a été décapité par les Allemands avec 66 autres combattants rebelles pour l'indépendance et pour chasser les Allemands. Et ce qui est aussi dans ce déplacement important, c'est les déclarations de Frank-Walter Steinmeier pour faire aussi un travail de recherche. Puisqu'il s'est passé un truc très moche, c'est que le crâne de cet homme, ce combattant, a été enlevé, on pourrait dire spolié, parce que il y a un Allemand, un militaire, quelqu'un, qui a embarqué ce crâne et qui soit s'en est servi comme trophée quelque part et l'a ramené, soit l'a ramené pour ce qui était fait beaucoup à l'époque, une collection ethnologique, scientifique, soi-disant, de ces crânes africains qu'on a beaucoup retrouvés hein, dans les collections des musées ethnologiques en Europe. Alors, donc ce travail, il est aussi intéressant parce qu'il a, c'est d'aller dire à la famille et aux descendants, il faut qu'on retrouve ces restes et qu'on puisse vous les restituer. Parce que l'Allemagne, non seulement elle demande pardon, mais elle tente aussi, dans la mesure du possible, de restituer les artefacts spoliés par les Allemands, que ce soit les pseudo-archéologues qui ont tout embarqué, ou les armées, hein, les soldats qui ont ramené des choses chez eux, et puis aussi les riches Allemands qui sont partis avec un certain nombre d'objets. Et donc là, le travail de Frank-Walter Steinmeier, c'est aussi de s'adresser aux descendants, aux vétérans, et de dire on va poursuivre ce travail de pardon et ce travail surtout d'histoire, et donc de pouvoir vous restituer un certain nombre d'objets. Et donc c'est toute la différence là entre deux processus, de deux pays qui ont pas le même fondement politique, une monarchie et une république, et qui cela s'ajoute très certainement quand même sur la manière aujourd'hui dont on travaille son histoire et dont on fait un travail de mémoire et aussi un travail de pardon sur les actes commis dans le cadre de ces colonisations. La France a tout intérêt aussi un jour à suivre un tel chemin.
Alors on va parler un petit peu de discrimination, c'est une enquête qui sort de l'Observatoire des inégalités autour de l'homosexualité au sein des familles. Alors l'idée c'est d'avoir des chiffres et de voir si le ressenti qu'on a est la réalité, puisqu'on a tous et toutes autour de nous des gens qui ont eu du mal à affirmer leur homosexualité au sein de leur famille. Est-ce que c'est généralisé? Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que c'est juste un ressenti qu'on a? Eh bien, l'enquête nous révèle pas mal de choses. Donc, ils sont partis des 1200 cas de discrimination et de violence à l'égard des homosexuels qui ont été recueillis en 2022 par SOS Homophobie. Sur ces 1200 cas, il y en a 177 qui, donc de ces plaintes, hein, c'est des cas extrêmes, hein, qui sont produits au sein des familles. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être entre 15 et 20% de ces discriminations, de ces violences, au point d'aller dénoncer ces violences à SOS Homophobie qui ont lieu au sein des familles. Mais ça, c'est un peu le haut de l'iceberg. On voit pas tout ce qu'il y a en dessous, tout ce qui est moins violent, mais tout aussi violent, mais voilà, sur une violence plus longue dans le temps et moins forte à l'instant T. Donc là, l'enquête, elle révèle qu'en fait, C'est compliqué, on imaginait bien. Notamment pour les adolescents homosexuels qui sont particulièrement exposés, d'après l'enquête, aux réactions violentes de leurs proches. Alors, il y a des détails hein, chez certains parents. Alors, c'est le coming out de l'enfant qui entraîne en général la volonté soit de l'empêcher de vivre son orientation sexuelle et, ou amoureuse, soit son changement, son identité de genre. Alors, avec tout ça, il y a des bribades, des atteintes à la liberté, donc interdiction de sortie, rétention de l'ordinateur, de téléphone, enfin des outils de communication, on change d'établissement scolaire, on change d'environnement, on déménage, enfin plein de choses qui sont des attaques indirectes contre la liberté d'être soi-même finalement quelque part. Alors ça concerne pas mal les adolescents, mais l'étude montre qu'en fait finalement pour les jeunes adultes c'est un peu la même chose. Quand pour les adultes un peu plus âgés c'est un peu différent, mais pour les jeunes adultes on va dire jusqu'à 25 ans il y a la même problématique et qui entraîne en général le dilemme assez logique, c'est est-ce que je continue de côtoyer des proches malgré les violences que je vais subir, ou est-ce que je coupe les ponts, je renonce finalement à ces liens familiaux et je vis ma vie loin de ma famille, avec les douleurs que ça peut entraîner et les souffrances. Voilà, donc c'est ça qui est résumé dans le rapport. Alors en termes de chiffres, d'après le rapport, grosso modo, alors on parle des personnes qui vont changer de genre ou des personnes qui sont homosexuelles ou bisexuelles, enfin voilà, c'est pas détaillé, mais ça concerne toutes les formes de LGBT en fait, et ça va entraîner ces LGBT-phobies, dirons-nous. Il y a 67% des personnes qui disent qu'il y a un rejet de leur famille. 33% qui disent avoir vécu des insultes. Donc jusque là on est, voilà, c'est pas de la violence directe, mais quand même pas mal. 28% vont subir du harcèlement, donc là on rentre dans des choses un peu plus violentes. 19% des menaces. 19% vont subir des agressions physiques. Bon, après il y a encore d'autres choses, ça va jusqu'au viol, enfin voilà, mais ça c'est 1 ou 2%. Donc, grosso modo, ce que révèle l'étude, c'était le ressenti qu'on pouvait avoir avec les copains-copines qu'on peut croiser, qui nous racontent comment elles ont vécu leur coming out dans leur famille. Ben, en fait, c'est pas des choses uniques, c'est généralisé. Grosso modo, il y a une forte discrimination liée à l'orientation sexuelle au sein de la sphère privée, au sein des familles, voire au sein des relations amicales. Malgré un progrès dans l'acceptation de l'homosexualité, quand c'est au sein des familles, ça semble pas avoir un impact très très fort encore. Donc ce que nous dit l'étude, ben, c'est qu'il faut continuer à travailler, il faut continuer à se battre pour que l'école parle de ces sujets-là, parce que voilà, la famille c'est un lieu qui est normalement protecteur et qui devient agressif pour ces personnes-là. Donc c'est une quelque part une double peine, une double violence. Voilà. Donc l'étude est intéressante pour ça, et pour le coup, elle est comme d'habitude pas très rassurante.
Alors je vais vous parler d'histoire d'ouvriers et d'ouvrières. On va d'abord partir au Bangladesh. Alors, vous le savez, le Bangladesh est l'usine à textile du monde.
Oui, il paraît.
Et on a une grande mobilisation en ce moment. Alors... au niveau des chiffres, c'est très compliqué, parce que selon les articles que j'ai lus, on va vous parler d'un mouvement très particulier. On va vous dire qu'il y avait 5000 ouvriers et ouvrières qui ont dressé des barrages hier. Et puis en même temps, on va vous parler des 10 000 ouvriers à Ghazipur qui ont débrayé lundi. En même temps, on vous dit que d'après le dirigeant du syndicat de l'habillement de la région d'Achulia, Mohamed Ibrahim, 100 000 ouvriers et ouvrières qui seraient soit en train de monter des barrages, soit en train de débrayer, soit en train de faire grève, soit en train de foutre le feu à leur usine. Donc au niveau des chiffres, je pense que c'est pas ça l'important. L'important, c'est de se rendre compte qu'il y a une mobilisation telle que ça a fait réagir, la main sur le cœur, les multinationales qui sont touchées par ces mouvements de contestation. Alors par exemple, on a Gap, hein, Lévi-Strauss ou Adidas par exemple, que vous connaissez bien, ou Puma, hein, Puma qui est d'ailleurs dans la liste de BDS dont je vous parlais tout à l'heure, une bonne marque hein, donc, qui ont écrit la main sur le cœur à la première ministre Sheikh Hasina et à son gouvernement pour faire remarquer quand même que le salaire salaire net mensuel moyen n'avait pas été augmenté, ajusté depuis 2019. Mais tout ça à la main sur le cœur, bien évidemment. Et que quand même, il y a beaucoup d'inflation et que c'est très dur pour la population. Et que dans ce courrier dont ça a adressé à cette première ministre, ces multinationales espèrent qu'il va y avoir des revenus complémentaires et une issue satisfaisante aux négociations. Mais la main sur le cœur.
Voilà. Si pour le bien-être cher, des ouvriers. Ça va augmenter les ouvriers aussi, non?
Ouais, mais ce que je pense que surtout là, c'est qu'ils aimeraient bien que les usines elles redémarrent.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Hein, la main sur le cœur, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est qu'il y a effectivement une inflation très dure. Il y a une dépréciation de la monnaie locale, le taka, et donc il y a ces milliers d'ouvriers et d'ouvrières du textile qui sont la main d'œuvre de nos marques et de nos multinationales, qui descendent dans la rue. Alors, comme je vous le disais, il y a plusieurs mouvement, hein. Il y a eu des barrages routiers très importants qui ont vraiment bloqué une activité annexe. Et puis à Ghazipur, dont je vous parlais tout à l'heure, il y a une usine qui a été incendiée, il y a un ouvrier qui est mort, hein, pour ce qu'on en sait déjà. Et puis à partir de là, bah, évidemment, il y a eu des affrontements avec la police. Il y a pour ce qu'on en sait aussi, un deuxième manifestant qui est mort. Et puis, d'après un média qui s'appelle Protomalo, il y aurait des militants du parti au pouvoir qui auraient fait usage d'armes à feu, en tout cas de violence contre les manifestants et les manifestantes, contre les grévistes. Donc, vous voyez, il y a aussi, c'est un pays, le Bangladesh, où on peut avoir des partisans au pouvoir qui descendent dans la rue comme une milice pour aller taper les ouvriers et les ouvrières. Donc il y a une violence qui s'est mise en place. Alors il y a une colère des ouvriers et des ouvrières qui est très importante. Parce qu'il y a un salaire mensuel minimum qui est extrêmement bas. Il est de 8300 takas. Alors j'ai regardé, ça fait pratiquement 71 euros. Hein, c'est, voilà, mensuel, hein, vous avez bien entendu. Les ouvriers et les ouvrières demandent 23 000 takas, ça fait à peu près 100 alors au jour, hein, j'ai regardé, ça fait 196 euros et quelques. Donc oui, c'est une augmentation importante, mais enfin, il et elle estiment que, bah, après tout, sur l'usine textile du monde. Donc, Gap, Lévi-Strauss, dont je vous parlais tout à l'heure, Adidas vendent suffisamment cher leurs godasses et leurs fringues pour que peut-être ces ouvriers et ces ouvrières puissent gagner un peu mieux. Donc, le problème, c'est que là, il commence à y avoir des confrontations. Et puis, il se passe aussi un truc, c'est que, ben, y a aussi des syndicats qui, évidemment, vont dans d'autres usines et font stopper les machines. Et oblige les ouvriers et les ouvrières qui ne voudraient pas rentrer dans le mouvement à participer un peu de force à ces négociations, un peu de force avec donc leur patron. Parce que là, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'on a de la sous-traitance et que les autres, ils sont bien jolis, les multinationales, avec leur petit courrier à Madame la Première Ministre, mais au fond... Hein, c'est pas eux, hein, qui ont leurs usines là-bas, bah, qu'ils aillent usir leurs usines, qu'ils payent eux-mêmes, hein, les multinationales, qu'elles payent elles-mêmes les ouvriers et les ouvrières, et on aura peut-être un petit peu du changement et une autre valorisation de ces travailleurs et de ces travailleuses. En tout cas, c'est une vraie galère, hein, pour Sheikh Hasina, cette première ministre. Elle est là depuis 15 ans et elle se retrouve avec des travailleurs et travailleuses du textile extrêmement en colère. C'est 85% hein, des exportations annuelles, le textile. Donc, quand ces travailleurs et ces travailleuses sont en grève, arrêtent de travailler, c'est une catastrophe pour le pays. Parce qu'en plus, quand il y a des blocages routiers, c'est tout le pays qui s'arrête. Et donc, c'est une problématique politique qui se met en place. On va voir quels seront donc les résultats de ces mouvements. On espère qu'il n'y aura pas trop de violence et pas d'autres morts. Et puis, une autre, d'autres travailleurs et travailleuses qui sont en difficulté et dont... On peut très bien oublier. Je me suis rendu compte qu'avec l'arrivée du Hamas, cette attaque sanguinaire en Israël, des gens, c'est de l'antisémitisme, hein, ce que je vais vous dire, pensaient qu'en fait, il n'y a que des juifs en Israël, et en plus, ils sont blancs avec des moumoutes sur la tête. Vous voyez cette image de Rabbi Jacob. Et alors là, je suis un peu tombée de ma chaise parce qu'il y a quand même des gens qui voient Israël comme ça, alors que c'est un pays très partagé, ne serait-ce que chez les juifs israéliens et israéliennes. Hein, il y a des gens qui viennent de ce qu'on appelle la zone blanche, hein, la Russie, et puis les gens qui viennent du Maghreb,
quoi, ouais, l'Afrique,
par exemple.
Voilà,
et puis on a aussi les gens qui viennent de l'Afrique noire.
Le Falacha, ouais. Qui sont un peu les plus méprisés hein, au sein de...
Oui, parce qu'il y a un racisme très fort. Hein,
entre juifs, oui, c'est impressionnant.
Il y a aussi tout un tas de personnes qui ne sont pas juives et qui vivent... D'abord, il y a des Israéliens chrétiens, rappelons-le. Hein, mais il y a aussi tout un tas de travailleurs et travailleurs...
Les musulmans, d'ailleurs, les Israéliens.
Exactement,
musulmans,
oui, non, mais on va pas...
Il y a peut-être même des bouddhistes, on ne sait pas.
Très certainement.
Mais il y a aussi des gens
qu'il y a des gens qui viennent travailler, comme dans n'importe quel pays, qui sont des travailleurs et des travailleuses immigrées, et qui viennent faire comme de partout les tâches dont personne ne veut dans le pays.
Même si
ils viennent remplir les petites mains.
Ouais, même si c'est pas un fort pays d'immigration, ça existe effectivement.
Alors, on parle quand même de centaines de milliers d'ouvriers et d'ouvrières, hein, et de petites mains. Et en particulier, des gens qui viennent de pays d'Asie, comme la Thaïlande et les Philippines, par exemple. Et là, ces travailleurs et travailleuses migrants et migrantes se retrouvent pris dans un étau. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui ont une facilité de migration, vous vous en doutez bien, mais ce sont aussi des gens qui ont pu venir en ayant payé des gens pour arriver en Israël. Et donc, il y a une dette souvent colossale, à rembourser à des passeurs. Rentrer au pays alors que là il y a une guerre et que en plus ça va être compliqué de retrouver du travail. Par exemple, il y a toutes ces petites mains sont beaucoup dans l'entreprise du tourisme, dans l'industrie du tourisme hein, en Israël. Donc il y a tout un secteur qui est un petit peu en galère. Et puis il y a un secteur où par contre là on les a fait venir les petites mains parce que les populations israéliennes qui ont été déplacées trop proches de la bande de Gaza ou qui ont dû fuir les tirs du roquet du Hamas, et ben on les a mis dans des hôtels et donc on a les petites mains qu'on a gardées. Et puis les autres ben on s'en débarrasse. Le problème c'est que rentrer au pays ben ça veut dire peut-être ne pas pouvoir revenir, mais aussi devoir payer une dette à des passeurs. Donc on a une difficulté. Alors du côté de la Thaïlande par exemple, des Philippines, il y a une recherche hein, des autorités pour aider les populations à peut-être rentrer, parce que l'autre galère aussi c'est que ces Thaïlandais et Thaïlandaises travaillaient aussi dans les fermes et les kibboutz. Ben comme il y a les petites mains toujours hein, dans les champs, il faut le savoir. Et puis il y a aussi ces Thaïlandaises et ces Thaïlandais qui travaillaient aussi très proches de la frontière avec Gaza, donc dans des zones dites rouges, c'est-à-dire en danger. Donc on a fait venir des gens d'ailleurs pour travailler
dans les zones dangereuses.
Dans les zones dangereuses, exactement. Donc il faut savoir qu'il y a des Népalais aussi. Il y a près de 5000 Népalais et Népalaises quand même qui travaillent dans ces contrées difficiles israéliennes. Et là la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait parce qu'on les met dehors. Enfin, en tout cas, on les laisse partir. Mais en même temps, après, il va falloir faire revenir des populations pour aider quand même hein, là où personne ne veut aller travailler. Mais du côté des autorités israéliennes, on n'a pas trop envie non plus de payer hein, des gens pour rester, hein, ce qui est pourtant ce serait quand même une bonne idée. Et du côté de la Thaïlande, il y a 4000 personnes qui sont rentrées et du côté de la Thaïlande, on demande aux ressortissants de rentrer en Thaïlande et il y a même des propositions financières qui sont faites pour pouvoir les aider à rentrer le temps d'eux. Mais le temps d'eux, ça peut durer longtemps. Donc voilà, il faut aussi souvenir que quand il y a une guerre et un conflit, ben il y a des populations qui sont étrangères à ce conflit. Et alors là, pour le coup complètement,
vraiment, ouais.
Qui ne demandent pas un droit de vote hein, pour aller dire je vais aller voter autre chose que la droite, l'extrême droite israélienne, qui subissent les conséquences de ce conflit. Et là, il y a du côté des pays asiatiques dont je vous ai parlé, on leur dit bah, vous allez qu'aller au Qatar ou en Arabie Saoudite. Alors bon, autant vous dire que ça fait pas rêver. Ouais. D'autant plus qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont pu se marier, en particulier avec des Palestiniens et des Palestiniennes, et qu'il n'y a pas une volonté faramineuse de laisser sa famille pour aller travailler au Qatar et en Arabie Saoudite.
Alors on va parler un peu d'éducation maintenant, voilà, avec deux infos. La première concerne encore un faux-né de l'extrême droite, une asso qui s'appelle SOS Éducation. J'en parle parce qu'ils ont fait parler d'eux et c'est l'occasion d'avoir ce nom en tête pour ne pas se faire avoir, puisqu'ils arrivent comme d'habitude un petit peu masqués, ces gens-là. En fait, c'est arrivé à Villeneuve-d'Ascq, donc il y a eu des tracts qui ont été déposés dans les boîtes aux lettres. Tracts distribués, imprimés imprimés par cette association qui s'appelle SOS Éducation. C'est des tracts ouvertement transphobes. Ça a fait réagir sur place. Il y a notamment le maire de Villeneuve d'Ascq, qui est membre du PS, Victor Burette, qui a lancé une procédure pénale, puisque la transphobie ou l'homophobie, c'est interdit. Dans ce tract, hein, le SOS Éducation, c'est un tract de 8 pages, hein, c'est un truc sérieux. C'est une asso, hein, qui se définit soi-disant comme indépendante de tout mouvement politique, syndical, professionnel et confessionnel. Donc là, ils font état d'une soi-disant dérive de l'école française qui inculquerait, je cite, là je vais citer, c'est pas moi qui parle après, hein, l'idéologie transgenre aux enfants. Ils disent que derrière cette propagande qui menace la santé mentale et physique des jeunes se cacheraient les lobbies LGBT+, les militants du genre et leurs alliés, et tout ça c'est cautionné par les pouvoirs publics. Voilà ce qu'on peut lire dans le tract. On peut lire aussi que derrière la dysphorie de genre se cacherait un phénomène inquiétant se répandant par contagion sociale avec l'obsession de se fabriquer un nouveau corps, un mal-être des enfants que l'association considère comme normal à cet âge-là en raison de la puberté. Grosso modo, il nie toutes les problématiques de genre, bien évidemment. Alors, en fait, il raconte beaucoup de bêtises, il y a pas mal de fausses informations, ce qui a fait réagir donc le Parti Socialiste, mais aussi l'association HES LGBTI+, et puis différentes personnes qu'on peut apprécier. C'est l'intervention de trouver ces trucs comme ça dans sa boîte aux lettres, tout simplement. Alors, on en parle parce que SOS Éducation, c'est une association qui avance masquée, comme je l'ai dit, ils se disent apolitique, il n'y a pas de lien confessionnel. Sauf que quand on fouille, c'est pas tout à fait le cas. Donc, ils sont proches d'une structure qui s'appelle la Fondation pour l'école, qui finance par le biais d'associations catholiques des établissements hors contrat, donc souvent et parfois non mixtes d'ailleurs, ou qui participent à la formation des prêtres. Donc le fait de dire qu'ils sont pas liés à la religion, c'est quand même un poil compliqué. Ils sont soi-disant à peu près 60 000 en France. Ils sont aussi proches de Sens Commun, qui est un mouvement réactionnaire qui est lié lui au parti LR. Alors que le reste c'est plutôt du côté de l'extrême droite. Voilà. Ils ont même été épinglés par la Cour des comptes en 2020 pour l'opacité de leur fonctionnement et de leur financement. Pour dire qu'ils n'étaient pas réglo, quoi, grosso modo. Parce qu'ils sont financés sur les dons. Ils n'ont plus le droit de défiscaliser les dons, donc c'est un peu plus compliqué pour eux, et tant mieux. Grosso modo, c'est une structure SOS Éducation qui a fait comme premier combat les méthodes d'apprentissage de la lecture, parce que ça fait bien de dire, il faut apprendre la méthode syllabique à l'ancienne, etc. Donc ils se font connaître sur cette bataille-là, et par derrière, grosso modo, ils ont toutes les idées liées à l'extrême droite sur l'éducation, ils rejettent toute forme d'ouverture, tout ce qui promeut un tant soit peu l'égalité. Alors c'est le cas des langues, par exemple. Donc ils sont contre l'enseignement des langues régionales, parce que pour eux, il n'y a que le français qui doit exister. Les autres langues, elles n'ont pas le droit d'exister. Elles sont contre toute forme de féminisme. Donc elles attaquent, notamment, elles ont une grosse campagne contre l'écriture inclusive. Du coup, elles sont potes, elles doivent se rapprocher de Macron, hein, qui lui aussi a fait valoir son côté réactionnaire avec sa pseudo-bataille là, contre l'écriture inclusive. Enfin, voilà, ils sont sur ce genre de bataille-là. Ça nous rappelle une autre structure qui s'appelle Parents Vigilants. Donc ça, c'est vraiment les trucs à faire attention quand on est parent. SOS Éducation et Parents Vigilants. Parents Vigilants, c'est une association qui est proche d'Éric Zemmour, qui essaye de se faire élire dans les comme parents d'élèves responsables, hein, pour essayer de passer leurs idées. Donc voilà, l'éducation est attaquée par l'extrême droite depuis de nombreuses années, mais elle arrive masquée à travers ces différentes structures. Donc il faut les avoir en tête, SOS Éducation ou Parents Vigilants. Et puis autre chose qui n'a rien à voir, c'est l'ONU qui a condamné la France parce que la France aurait une politique trop restrictive en matière de liberté éducative. On parle en fait de l'école à la maison, notamment les Nations Unies trouvent que, notamment avec les dernières lois, la loi sur le séparatisme par exemple, ça laisse pas assez de liberté pour faire pour que les enfants soient pas scolarisés mais qu'ils fassent l'école à la maison. Donc voilà. Alors derrière ça, en fait, c'est une problématique qui est à prendre avec des guillemets. On parle de liberté, effectivement, c'est important, la liberté. Sauf que derrière ça, bien que ce soit porté, cette plainte qui a été portée au niveau de l'ONU par une structure qui s'appelle Liberté Éducation, qui est une structure laïque, derrière, c'est tous les religieux qui sont derrière tout ça. On l'a vu, puisque quand cette info est sortie, comme quoi la France était condamnée symboliquement là sur son manque de liberté sur l'enseignement, le comité protestant évangélique a salué tout ça. Pourquoi ? Parce que derrière ce refus de l'éducation publique et de l'éducation collective, en fait, se cachent majoritairement des religions et des religieux et des croyants qui ne veulent pas l'influence négative de ces programmes qui parlent de biologie, qui parlent de sexe parfois, qui parlent de tout ça. Donc faut se méfier. Il y a un aspect important dans l'école qui est la socialisation. Ça, ils veulent pas en entendre parler. Ce qu'ils veulent, c'est garder, avoir des enfants qui leur ressemblent intégralement. Et souvent, c'est ça qui se cache derrière cette liberté, cette demande de liberté d'enseigner à la maison. Alors il y a aussi des gens de gauche, voire des libertaires, hein, qui refusent l'école publique républicaine qui inculque de force des idées républicaines quelque part. Ils ont pas tort aussi. Mais en fait, faut voir que derrière tout ça, majoritairement, ce sont des religieux, alors toutes les religions sont concernées, des croyants qui refusent l'éducation publique parce qu'elle amène trop de choses rationnelles, rationalistes et scientifiques. Voilà. Donc, je voulais juste dire ça parce que cette condamnation, elle a une double lecture et il y a toujours un double danger avec cette notion de liberté d'enseigner. Et voilà.
Allez, je termine avec la Coupe du Monde, dont on va parler sport.
Ouais.
Comme il n'y avait plus que...
Il n'y a plus qu'un pays qui...
pour 2000, Coupe du Monde de football, hein, voilà, oui, excusez-moi. 2034, donc c'est l'Arabie Saoudite qui a donc empoché cette Coupe du Monde, puisqu'il n'y avait pas de pays...
Il n'y a plus de pays qui veut.
Non, je veux dire, faut dire que tout le monde ayant lâché l'affaire au fur et à mesure, soit pour des problèmes politiques, économiques, diplomatiques même, il n'y a pas le choix, hein, ça va être sympa. Donc, pays, le seul candidat en lice, hein, après le retrait donc, de l'Australie, Gianni Infantino a annoncé donc, sur les réseaux sociaux, tout content que c'était donc l'Arabie Saoudite avait donc gagné le droit d'organiser cette Coupe du Monde.
Mais lui, je crois qu'il aime bien les dictatures.
Bon, parce que l'Arabie Saoudite était prêt à tout. faire ça en été, en hiver, faire une chouette compétition, que les stades, ils allaient être vachement bien, et que peut-être qu'ils pouvaient même trouver des villes dans le royaume qui étaient moins chaudes. Tu vois ? Donc, ils étaient tout possible avec l'Arabie Saoudite, donc tout possible, de toute façon il n'y a personne d'autre, donc comme il faut continuer le sport compétition patriotique, on en est à donc trouver des pays. Ce qu'il faut bien comprendre comme l'Arabie Saoudite, je termine la phrase, c'est que le problème de la Coupe du Monde, c'est pas les JO. La Coupe du Monde, c'est que la Chine, elle peut pas bien, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu quand même du retour médiatique sportif en termes de football chinois.
Enfin, il n'y a pas de football non plus en Arabie Saoudite, même s'ils ont
oui,
des joueurs
qu'ils
achètent.
Oui, mais on le sait, il n'y a rien à attendre. C'est pas le but de l'Arabie Saoudite, c'est de faire croire qu'il y a un peu de démocratie, que c'est un pays bien fréquentable et tout et tout. La Chine, c'est surtout de montrer ses valeurs et donc sa puissance. À travers une Coupe du Monde de football ou de rugby, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de foot hein, en Chine, mais on sait que tout de suite que c'est mal barré pour gagner quoi que ce soit. Alors que les JO, vous voyez, c'est déjà plus intéressant. Il peut y avoir quelques spécialistes sportifs qui peuvent peut-être amener de la médaille, et puis à la rigueur, ça se noie sinon. Vous voyez, c'est ouais, moins voyant.
Le prochain, ça sera le Qatar, hein, parce que du coup, il reste que ces pays-là, que ces dictatures-là.
Oui, parce que là, en ce moment, la Russie, ils sont pas en odeur de santé, donc ça ne va pas bien marcher.
Ils sont capables de postuler. Hein.
En tout cas, du côté de Human Rights Watch, on a tout de suite réagi en expliquant. Le 4 octobre, la FIFA a annoncé que la Coupe du Monde 2030 aurait lieu au Maroc, Portugal, Espagne, avec des rencontres également en Uruguay, Argentine et Paraguay. Or, chacun de ces pays commet de graves violations des droits humains. En septembre, le président de la Fédération Espagnole de Football, Luis Rubiales, a été forcé de démissionner après avoir embrassé, sans son consentement, Jenny Hermoso, une joueuse de football espagnole, championne de la Coupe du Monde féminine 2023. Quelques heures après que la FIFA eut publié l'organisation prévue pour la Coupe du Monde 2030, l'Arabie Saoudite a annoncé son souhait d'accueillir la Coupe du Monde 2034. Je trouve que ce paragraphe résume très bien la situation merdique dans laquelle on va se trouver. Il va falloir encore faire des tonnes de papiers, des tonnes de discours pour dire que c'est pas fréquentable. Et pourtant, ça va se tenir, les joueurs vont y aller.
Les clubs vont collaborer, les pays vont collaborer, les joueurs vont collaborer.
On va fermer notre bouche. Voilà. Dans ce long communiqué, cette organisation rappelle que la Coupe du Monde au Qatar a été catastrophique pour les droits humains. Hein. On rappelle les ouvriers morts sur les chantiers, les problématiques pour les migrants et les migrantes sur place, et puis bon, que le Qatar, c'est quand même pas chouette. Et que là, en fait, la FIFA n'aurait pas retenu la leçon, explique l'organisation. Bah, en fait, je crois qu'elle s'en fiche, la FIFA.
Oui, c'est ça.
Hein, soyons
c'est
très clairs
du business, hein.
Sur la question, voilà, du bon business, donc pour 2034. Et alors 2030,
on va se quitter, on souhaite bien du courage aux Gazaouis, dont la ville de Gaza est encerclée entièrement par l'armée israélienne depuis quelques minutes. On rappelle qu'il y a une manifestation samedi à 15h, place Bellecour, pour soutenir la paix, demander un cessez-le-feu. Et on se retrouve donc demain pour le prochain Canu Info, enfin pas nous, mais une autre équipe. Et nous, la semaine prochaine.
Voilà, ciao ciao.
Bye bye, et tout de suite, la petite cuillère.